Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une personnalité, un personnage de la Basse Marche, Jean Le Sault. Nous le ferons à partir de l'ouvrage de Paul Lavergne, Les aventures de Jean Le Sault. Nous aurons l'occasion de parler plus longuement de Paul Lavergne, l'écrivain de Mézières-sur-Issoire, et ce sera en juillet, à l'occasion de l'anniversaire de son décès. Poétesse, romancière, auteur de théâtre et de livres pour enfants, Paul Lavergne avait su également recueillir patiemment les légendes, les traditions, les contes de notre région et les réécrire avec talent. On les retrouve dans plusieurs de ses livres, Récits de l'Ancien Temps, Histoire et légendes de Gajoubert ou Les Aventures de Jean Le Sault. Dans ses récits, elle sait mettre en scène des personnages originaux comme le curé de Gajoubert, comme Fanchette ou Jean Le Sault. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une espèce de héros populaire, sans doute un roi de la sottise comme on en trouve dans toutes les régions de France, mais le nôtre, Jean Le Sault, est né à Mavernier dans la commune de Mézières-sur-Issoire, et c'est sur les pentes des monts de Blon, au long de l'Issoire et des ruisselets qui la rejoignent, qu'il exerce son talent, si l'on peut dire. Nous le rencontrerons à Mézières-sur-Issoire, mais aussi à la foire de Bellac, à celle de la ville de Mortemar, à Villerajouze dans la commune de Blon, à Rancon, à Auzillac dans la commune de Château-Ponsac, au Chablard dans la commune de Blanzac, à La Bussière dans la commune de Droux ou à Chasseneuil de Rancon. Jean Le Sault, on le voit, est un héros populaire qui a fait la célébrité de plusieurs villages réputés être le berceau de ses aventures. Et Paul Lavergne n'est pas chauvine, car ses histoires couvrent presque tout le nord de la Haute-Vienne.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Qui est donc ce fameux Jean Le Sault ? Paul Lavergne, qui est sans doute la personne qui le connaît le mieux, nous dit à son sujet. Jean Le Sault, personnage naïf et balourd, à la fois rusé et stupide, attendrissant de bonne volonté, dont le comportement relève souvent de la farce, mais parfois aussi d'une délicate sensibilité, Jean Le Sault a diverti bien des générations. L'ethnologue Maurice Robert, lui, écrit à propos de Jean Le Sault, naïf, niais, cocasse, distrait, balourd, innocent au sens limousin du terme. Jean Le Sault est tout cela, mais il sait, à l'occasion, être futé, adroit, malicieux, voire malin, et plus malin même que le malin. Et il n'est pas interdit de deviner sous le personnage et au-delà de la facétie quelques fines leçons de morale et de philosophie. Rusé et stupide, nous dit Paul Lavergne, c'est ce que nous allons essayer d'observer. Et d'abord, Jean Le Sault et la Lune. Jean vivait donc à Auzillac avec sa grand-mère, sa mère et ses deux frères. En bon Gaulois, adorateur de la nature, il s'intéressait beaucoup à la Lune. Et leur plus grand désir était de s'en emparer. Les hommes du XXe siècle, sur ce point, n'ont pas changé. Eux aussi rêvent de la conquérir. Seule, la technique pour se l'approprier est différente. Certains soirs, elle paraissait si bas sur l'horizon qu'il aurait suffi, semblait-il, d'une longue échelle pour l'atteindre. Jean et ses frères résolurent de la décrocher. Comme ils ne possédaient point d'échelle suffisamment longue, ils se dirent qu'en entassant les uns sur les autres tous les fûts du village, cela devrait suffire. Jean et le cadet apportaient la futaille et l'aîné, jugé à la cime, se rapprochait rapidement de son objet. Il poussa tout à coup un cri de triomphe. « Frère, je la tiens, je la tiens. Il ne me manque plus qu'une barrique. Apportez-moi vite une barrique, juste une, et je l'aurai. J'en suis sûr, c'est comme si je la tenais. » Malheureusement, ils avaient tout raflé dans les celliers, le plein et le vide pour construire leur échafaudage. Il ne restait pas dans le village le moindre petit baril. Apportez, apportez ! Criait le frère aîné. Vous n'allez pas me faire échouer pour un méchant varicot ! Presque à la portée de la main, la lune, immobile, semblait sourire et attendre la suite avec curiosité. Apportez, apportez, c'est comme si je la tenais. Jean se rendait compte que le temps pressait. Il eut une idée. Attends, frère, attends, tu vas voir. Il arracha, non sans peine, la grosse tonne du dessous dans l'intention de la poser en haut. Mais patatras. Il n'avait pas compris que sur elle reposait tout l'échafaudage. La machine à décrocher la lune s'écroula avec fracas, entraînant dans sa chute celui qui gesticulait à la cime. Non seulement ils ne décrochèrent pas la lune, mais les gens les poursuivirent avec des gourdins pour avoir subtilisé les barriques dans les caves et dans les celliers. Et il s'en fallut de peu que l'aventure finisse mal pour les trois garnements.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Jean Le Sceau à la foire. La mère trouvait que Jean commençait à se dégourdir. C'est pourquoi elle dit « Tu iras vendre le cochon et le coq à la foire de Bellac. Je veux tirer 100 francs du porc et 100 sous du coq. Ce n'est pas bien compliqué. »« Oh non, non, ma mère, dit Jean, ce n'est pas compliqué. » Comme tu as mauvaise tête, tout le long du chemin, tu répéteras 100 francs le porc, 100 sous le coq. 100 francs le porc, 100 sous le coq. Oui, 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 ma mère, tout le long du chemin, je répéterai. En arrivant à Bellac, ça te sera entré dans la cervelle. Oui, oui, ma mère, ça y sera entré. Le voilà parti. Tout en marchant, il répétait avec conscience 100 francs le porc, 100 sous le coq. 100 francs le porc, 100 sous le coq. Mais il n'était pas arrivé au détour derrière chez le forgeron que les mots se brouillaient dans sa cervelle et qu'il disait « 100 sous le porc, 100 francs le coq, 100 sous le porc, 100 francs le coq » et c'était bien incrusté dans sa tête. La côte est longue et dure depuis le pont du Vincoux pour monter à Bellac. Le porc n'en pouvait plus. Il se coucha sur le foirail et ne bougea plus. Jean craignait de ne pas le vendre tant il paraissait mal en point. Le coq, lui, n'était pas fatigué. Jean l'avait porté sous son bras tout le long du chemin. Il avait la crête bien rouge, de jolies plumes d'or autour du cou et une longue queue brillante comme du ruban de velours vert. « Combien le coq ?» dit une belachonne tentée par sa bonne mine. « 100 francs !» L'acheteuse s'éloigna sans même marchander ni soupeser le coq. Une autre ne tarda pas à paraître. Combien, le coq ? 100 francs. Garde-le, mon ami. Tu le garderas longtemps, j'imagine. Et elle disparut. Un boucher passe et avise le goré qui ne bouge ni pied ni patte et semble prêt à crever. Combien, le porc ? 100 sous. L'homme n'hésita pas et malgré son aspect peu engageant, le porc fut enlevé. La foire se termina. Le coq restait invendu. Jean reprit le chemin de Vavernier, le beau coq vert et or sous son bras, et de temps en temps le coq protestait lorsque Jean le serrait trop fort. La mère, qui guettait, fut contente d'être débarrassée du porc. « Oh, ben tant pis pour le coq, nous le mangerons dimanche. Donne l'argent du porc. »« Tu n'as pas perdu, au moins. »« Ah, nenni, ma mère, dit Jean, pas de danger, le voici. » Et il sortit de sa poche la pièce de 100 sous et la posa fièrement sur la table. La pauvre femme crut en tomber de saisissement. Je ne vous dirai pas les clameurs qu'elle poussa ni les reproches qu'elle ne cessa d'adresser à Jean le reste de la soirée, mais il se sentait plutôt mal à l'aise.
Les petites histoires font les grandes histoires.
Ne sommes passés par vos champs, il y aura beaucoup de fourrage, et vos vaches feront des veaux, vous aurez du laitage. Ça vous fera de l'or et de l'argent pour élever tous vos enfants, en chantant ce joli mois de mai qui bat de la rosée.
Jean Le Sceau est peut-être sot. En tout cas, il sait, comme les autres garçons de son âge, faire sa cour, compter fleurettes, comme il dit. Et nous le verrons avec Minette, avec la fille d'un paysan de Villerajouze, de Blond, avec une jeune fille de Roussac, avec une autre de Rancon, avec une autre du Chablard de Blanzac, avec une autre encore de la Bussière de Droux, avec une autre de Chasseneuil de Rancon. Mais c'est en fait, en comptant fleurette à une bergère de Basse-Marche, que Jean Le Sceau trouvera chaussure à son pied. Voici le récit que nous en fait Paul Lavergne. Lorsque Jean fut en âge de se marier, sa mère lui dit « Au lieu de rester à la maison à te tourner les pouces, le dimanche après vêpres, il faut aller aux bergères. C'est temps de te dégourdir. Sauras-tu leur compter fleurette, nigaud comme tu es ?» Elle était sur le point de donner des explications lorsqu'il répondit « Ah oui, ma mère, je saurais compter fleurette aux bergères. » Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de s'en mêler. Ce sont des choses qui viennent toutes seules, même aux plus bêtes. Elle se borna à recommander. « Tu t'annonceras de loin en chantant et en donnant une huchée de temps en temps. »« Ah ben oui, ma mère, je donnerai une huchée de temps en temps, mais que chanter ?»« Car des chansons, moi, je n'en sais point. » »« Ah ben tu te contenteras de tiroulironer, tu feras ton-ton, tiroulette, ton-ton, tirouli, tiroula. Tu vois, ce n'est pas difficile. » « Ah ben non, ma mère, ce n'est pas difficile. » Le dimanche d'après, voilà Jean qui fait sa plume, se met en toilette et s'en va aux bergères après vêpres. Il en connaissait une bien mignonne qui gardait ses brebis non loin de là. Longeant les buissons, il chantait à tue-tête pour s'annoncer « Ton, 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 tiroulette, ton, 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 tiroula !» Quand il huchait, il enfonçait le petit doigt dans l'oreille gauche pour que ça fasse plus joli. Il avait vu faire ça aux autres gars. Mais va te faire l'enlaire en sautant un échalier, Jean oublie complètement les paroles, pourtant peu compliquées, de son chant. Il essaie de se les rappeler. Impossible. Je les ai bel et bien perdues, se dit-il. Et quand on a perdu quelque chose, on le cherche. Alors il se met à chercher dans l'herbe autour de l'échalier où les paroles ont dû tomber. Passe un monsieur de la ville qui se promène à la campagne. « Que cherchez-vous, mon ami ?» demande-t-il, intrigué. « Ah ben, j'ai perdu les paroles de ma chanson, » dit Jean. « Elles ne peuvent pas être loin, je les avais tout à l'heure. »« Ah, il fait chaud, » dit le monsieur qui se moque pas mal des paroles perdues. Mouche et abeille bourdonnent, un gros thon vient se poser sur sa main. Il le chasse en disant « Tant, tant, tant !»« Ah, merci, monsieur !» fait Jean qui vient d'être mis sur la voie et qui s'éloigne aussitôt en chantant « Tant, 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 tiroulère, tant, 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 tiroula !» Jean arrive près de la bergère. Elle l'attendait, souriante, à l'ombre du buisson. Il s'agit maintenant de lui compter fleurette. Alors Jean s'empresse de cueillir des pâquerettes, des violettes, des pervenches, toutes les fleurs des champs qu'il peut trouver. Il en apporte des brassées et il les jette une à une dans le tablier de la bergère. 1, 2, 3 pâquerettes, 4, 5, 6 violettes, 7, 8, 9 pervenches. Il ne sait compter que jusqu'à 10 puisqu'il n'a pas plus de 10 doigts. Mais quand il a fini, il recommence. 1, 2, 3 pervenches, 4, 5, 6 violettes, 7, 8, 9 pâquerettes. Tout l'après-midi est employé à compter des fleurettes dans la dorne de la bergère. Charmée par cette façon peu commune d'être courtisée, elle consentit d'emblée, qui l'eût cru, à épouser Jean Le Sceau. Et il semble d'ailleurs que le mariage se fera à la chapelle du Bois du Rat, dans la commune de Cieux. Le père de la jeune fille était enchanté, la mère de Jean Le Sceau ne l'était pas moins. Les nouveaux époux s'installèrent dans un beau domaine apporté en dot par la fiancée. Ils s'entendirent à merveille. L'épouse riait aux éclats parce que son mari faisait quelques bêtises.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Ouvrez la porte, ouvrez, ouvrez la porte, ouvrez.
Madame la mariée, mamie, non la la. Madame la mariée, mamie, non la.
Madame la mariée, mamie, non la la. Madame la mariée, mamie, non la.
On s'aperçut au bout de quelque temps que la femme de Jean commettait autant, sinon plus de bêtises que son mari.
Comment je
Elle prétendait savoir tout faire, mais quand elle se mettait à l'œuvre, il n'arrivait que des ennuis. Leur vache donnait beaucoup de lait et Jean dit un jour « Saurais-tu faire des fromages, femme ?»« Ah bah bien sûr que je saurais, » répondit-elle. « T'imagines-tu que je ne faisais rien chez mon père ?» Elle fit donc des fromages et ils les trouvèrent délicieux. Mais à force d'en manger, ils s'en dégoûtèrent et Jean eut une idée. « Irais-tu les vendre au marché, femme ?» demanda-t-il. « Bah bien sûr que j'irai, » répliqua-t-elle. « T'imagines-tu que je n'y allais pas quand j'étais chez mon père ?» Elle tapissa un panier de feuilles de vigne, le remplit de fromage, et la voilà partie. Mais elle n'arrivera jamais à la foire avec ses fromages. « Oh, ça ne fait rien, » dit Jean, « ne te tracasse pas pour si peu, femme, ça ira mieux la prochaine fois. » Elle essaya ensuite de faire du pain, mais le vent emporta toute la farine. Elle essaya de mettre le cidre en bouteille, mais elle oublia de fermer le coq de la barrique et tout le cidre se répandit. Jean, à chaque fois, pardonna et il l'embrassa pour la consoler. Pendant quelque temps, elle se tint tranquille. Un jour, comme elle brassait la paillasse, elle y trouva une bourse remplie d'écus. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle à Jean. « c'est une réserve pour recevoir le vieux malheur quand il frappera notre porte. Il vient tôt ou tard, une fois ou l'autre, » dit-il. Et il renfonça la bourse dans sa cachette. Le lendemain, comme la femme était seule, quelqu'un frappe à la porte, d'un grand coup de bâton. Elle s'empresse d'ouvrir et voit un mendiant qui lui dit « Je suis le vieux malheur. Je viens chercher ce que votre mari a mis de côté pour moi. » C'était un chef de voleur déguisé en mendiant. Sur le point d'entrer la veille pour faire un mauvais coup, il avait entendu ce que disait Jean et il profitait du moment propice pour arriver sans peine à ses fins. « Ah, mais je suis au courant, » dit la femme. « Attendez une minute, je vous remets cela. » Et elle courut chercher la bourse. Lorsque Jean rentra le soir, elle lui raconta ce qui s'était passé. Elle comptait recevoir des compliments, mais cette fois c'en était trop. Jean le prit très mal, et il ne voulut même pas la consoler quand elle se mit à pleurer. « Je vais être obligé de te quitter, pauvre femme, pour me mettre à la recherche de ma bourse, et je ne suis pas prêt de revenir. Quant à toi, quand tu sortiras, je te recommande de toujours bien tirer la porte. » Il partit. Décidé à ne jamais revenir. Ah, cependant, il avait des regrets de tout quitter. Il s'assit à l'orée du bois, d'où il apercevait encore la fumée de la maison qu'il venait d'abandonner. Soudain, il n'en crut pas ses yeux. Et pourtant, il ne se trompait pas. Courbé sous le poids de la porte qu'elle avait chargée sur son dos, péniblement, sa femme avançait vers lui. « Je t'ai obéi, tu vois. J'ai tiré la porte en sortant. Je commençais à m'ennuyer sans toi. » « Je veux aller partout où tu iras. Le maire n'a-t-il pas dit que je devais te suivre ?»« Que faire ?» La nuit tombait. Jean se chargea de la porte, grimpa dans un baliveau où il installa entre deux branches et voilà un lit peu ordinaire pour y passer la nuit. « Oh, il n'y a que toi pour y avoir pensé, » dit sa femme, émerveillée. À peine y étaient-ils installés tous les deux, ils entendent des pas et un bruit de voix. Des gens s'arrêtent sous le baliveau. C'est la bande de voleurs dont le soi-disant vieux malheur est le chef. Ils se sont réunis pour partager le butin de la semaine. Cela fait un gros tas d'écus d'or et d'argent avec des bijoux et des objets de valeur. À la clarté de leur lanterne, Jean aperçoit le trésor entre les branches. Voilà le moment d'agir. Il se retire sans bruit de la porte et on fait retirer sa femme. Tous deux s'installent comme ils peuvent dans les branches, et tout d'un coup, sous une bonne poussée, la porte dégringole avec fracas sur la tête des brigands qui ne savent d'où cela vient et croient le diable à leur trousse. Tous plus ou moins blessés, épouvantés, ils s'enfuient et abandonnent les richesses. Quand ils n'entendent plus rien, Jean et sa femme descendent de l'arbre, ramassent le trésor, reprennent la porte et s'en retournent chez eux sans que personne se soit aperçu de rien. Par la suite, Jean loua une servante pour que sa femme n'ait plus rien à faire et ne soit pas tentée de commettre quelques sottises.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Les histoires de Jean Le Sceau les plus intéressantes sont celles qu'il oppose au diable. On le verra, Jean Le Sceau n'est point si sot que cela, puisque toujours il est plus malin que le malin, et en cela, il est bien un héros. Il faut dire que Jean Le Sceau connaît bien le diable, puisqu'il a été valet dans la ferme du malin. D'ailleurs, lorsque le diable se déguise en bourgeois, Jean le reconnaît tout de suite. Il avait deux petites cornes qui soulevaient son chapeau, et il traînait cette odeur de brûlé qui le trahit toujours. Après son mariage, qui lui donnera d'ailleurs 14 enfants, Jean combattra le diable avec son épouse, qui sera sa meilleure complice. En voici un exemple. Une fois, Jean y branchait des chaînes. Voilà le diable qui passe. « Je viens de voir ta femme, et elle me plaît, hein. Je veux coucher avec elle. À condition, bien sûr, que tu sois de consent. Ah, c'est à voir, dit Jean. » Pour discuter de la question, il descendit de son chêne. « Elle me plaît tellement, dit le diable, que je ferai n'importe quoi pour elle. »« Ah ben, pour commencer, dit Jean, si tu veux lui plaire, tu devrais te faire couper la queue. »« Ah oui? Tu crois? Ah ben sinon elle ne consentira jamais sans ça. Ah, « c'est ennuyeux, hein ?» dit le diable qui tenait à sa queue. « Mais au contraire, c'est tout avantage. Tu passeras partout sans être reconnu. »« Ah ben, tu as peut-être raison, hein ? Mais à qui la faire couper ?»« Ben, je m'en charge. Pose-la là, sur ce billot. » Le diable posa sa queue sur le billot et d'un coup de hache bien envoyé, vlan ! Jean, sans baragouiner, coupa la queue du diable. « Aïe ! Ouïaïa ! » se plaignit le diable. « Si j'avais cru que ça fasse tant mal, tu me l'aurais pas coupé. Oh, »« ça va passer, dit Jean, tu en fais des manières. »« Ouh là 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 !» continuait le diable, épinglant à droite, épinglant à gauche. « Ah, ça me sabine et ça me cousine, ça me brûle comme du feu. Ouh là 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 !»« Demain, ce sera guéri et tu pourras venir voir ma femme. » Le diable s'en alla tout dolant se faire graisser de pommade par sa servante. Jean fit la leçon à sa femme. « Tu t'arrangeras comme ça et comme ça. Tu diras comme si et comme ça. Et en cas de besoin, je me tiendrai à portée avec une fourche. » Le diable ne dormit pas de la nuit, tellement la femme le tourmentait et tant sa blessure lui faisait mal. Il se mit en route à la pointe du jour. C'était encore plein de brouillard. À peine y voyait-on à deux pas devant soi. Au même endroit que la veille, un homme ébranchait des chaînes. Le diable le prit pour Jean. « Je m'en vais voir ta femme, hein ? Ah, je n'ai pas pu fermer l'œil !» L'autre se laissa glisser à terre. C'était un jeune gars, la figure sale, dégoûtante. Oh, il ne devait même pas se débarbouiller tous les dimanches. Son bonnet de coton crasseux lui pendillait dans le cou. « Et qui es-tu ? » demanda le diable. « Je suis le valet, » dit l'autre. « Ainsi, tu vas voir la femme de mon maître. » Oh là, je n'en ai pas dormi de la nuit, j'en perdrai le boire et le manger. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas la toucher. Et pourquoi ça? Elle te le ferait payer cher. Bah, elle m'a déjà coupé la queue, hein, je souffre le martyre. Oh, tu te plains pour peu de choses, dit le valet. Que diras-tu quand il t'aura arrangé comme moi? Tu l'as donc eu, toi, sa femme? Eh, pardi. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu tiens à le savoir? Ah oui, oui, dit le diable dévoré de curiosité. Le jeune gars commença à se déculoter. Eh bien, regarde. La femme, car c'était elle, déguisée en valet, montra une anatomie dont le diable ne revenait pas. Il examina tout en détail. Ah! Pauvre malheureux, dit-il enfin. Il t'a tout arraché. Il ne t'a rien laissé. Ah! Je ne voudrais pas être à ta place. Subitement guéri de la femme de Jean, tandis que le valet remontait ses brais, le diable s'en retourna chez lui se faire encore graisser par sa servante.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette séquence des petites et grandes histoires de la basse marche consacrée à Jean Le Sceau. Nous avons utilisé le recueil de Paul Lavergne, Les aventures de Jean Le Sceau, publié en 1971. Sur le plan musical, nous avons fait appel à la danse de l'ours, au branle des sabots, au branle de la mariée par les groupes Mélusine, Maluzerne, Balapate et à Serge Prokofiev. Très bonne semaine à vous, à bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.